On va passer à la présentation d'autres pratiques patrimoniales. Alors, je dois vous présenter les excuses d'Hélène Bourdelois, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et qui est donc l'enseignante-chercheur qui pilote ce projet FANAS, qui va être rappelé. Mais j'ai le plaisir de vous présenter donc les deux chargées d'études qui travaillent sur ce projet, Sarah Oumer et Caterina Gentiloni-Silveri. Qui suivent ce projet pratiquement depuis le début et qui vont pouvoir nous le présenter et nous montrer un petit peu ce qu'implique l'enquête de terrain. Alors, ça a déjà été abordé tout à l'heure par Geneviève Vidal, hein, la question des enquêtes et voir quel est l'impact interdisciplinaire de cette pratique. Donc, vous avez la parole. Oui, alors je vais vous mettre donc ceci, je pense que voilà, c'est bon.
Bon, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez.
Sinon, il y a le micro.
J'utilise le micro. C'est bien. Nous vous remercions pour votre invitation et nous sommes très heureuses de présenter aujourd'hui devant vous le protocole méthodologique du projet FANA. Tout d'abord, nous aimerions parler un peu de l'interdisciplinarité, de statut de chacune de nous qui travaille sur ce projet. Je m'appelle Sarah Oumer, je suis diplômée d'un master de sociologie de l'université Paris-Sorbonne et je suis aussi arabisante.
Moi, je m'appelle Caterina Gentiloni-Silveri, je suis en master 1 à Sciences Po Paris, dans un master de sécurité internationale, mais concentré sur le Moyen-Orient et l'immigration. Et en même temps, je suis à l'INALCO en licence, donc en langue arabe. C'est pour ça que je suis arabisante. J'ai fait des études toujours axées sur le Moyen-Orient. C'est pour ça que j'ai pu joindre le projet.
Oui. Et aussi le statut de Hélène, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, qui est aussi sociologue. Du coup, ici, on voit très bien les trois disciplines qui travaille sur le projet, qui est le projet FANAS. Pour le décrypter, c'est femmes et usages mémoriaux et patrimoniaux du numérique en Arabie Saoudite. Et ce projet, il vise à étudier les traces, les usages des traces qui sont nativement numériques ou numérisées par les femmes saoudiennes. L'Arabie Saoudite et notamment sa capitale Riyad ont été choisis comme terrain de recherche pour des raisons d'opportunité. Tout d'abord, parce que dans ce pays, il y a peu d'études qui s'intéressent à la sociologie des usages et notamment aux recherches sociologiques sur le genre d'une manière très, très globale. Parce qu'il s'agit d'un pays qui connaît une ségrégation de genre et de classe, conjuguant tradition extrêmement rigoriste avec modernité technologique. On peut le constater, par exemple, dans les espaces, que ce soit public ou privé, où il y a une certaine interdiction de mixité qui n'est pas uniquement sociale et culturelle, mais qui est ainsi institutionnalisée dans des lois juridiques qui interdisent la mixité, quel que soit dans les espaces publics tels que les malls ou dans les espaces tels que les écoles ou même dans les espaces professionnels tels que dans les entreprises. Le rapport à l'espace et à la mobilité, notamment dans une ville comme Riyad, conduit les Saoudiennes à développer des usages spécifiques des supports numériques et particulièrement du téléphone mobile. C'est dans ce sens que dans ce pays, le nombre ou l'effectif de femmes qui utilisent les technologies numériques dépasse largement celui de leurs homologues masculins, notamment par une forte proportion de femmes qui sont des femmes au foyer, qui utilisent à partir de leur domicile les applications mobiles ou le web d'une manière générale qui dépasse 87,50%. Et aussi des hommes plutôt de les utiliser dans les espaces tels que des établissements gouvernementaux avec un taux de 94%. Sachant que dans ce pays, le nombre de femmes qui sont étudiantes, qui ont un statut d'étudiante, qui ont fait des études supérieures et qui sont en situation de chômage, dépasse trois fois celui des hommes.
Donc, les questions qu'on s'est posées, les questions de recherche, sont premièrement, quels usages sont faits des traces numériques, donc des traces nativement numériques ou numérisées. dans un pays comme l'Arabie saoudite, où le poids de la religion contraint fortement les usages, notamment sur le plan de la photographie, d'être animé. Et ensuite, on se demande aussi si le numérique constitue-t-il pour les femmes saoudiennes une possibilité d'entretenir la mémoire ainsi que les identités familiales et individuelles. Et donc, si elle développe un usage mémoriel et patrimonial du numérique. Donc, le terrain de recherche qu'on a choisi, c'est justement la ville de Riyad. Mais on s'est rendu compte tout de suite qu'il fallait trouver des contacts. Parce que le contact avec les femmes en Arabie Saoudite n'est pas évident, la prise de contact. Donc, nous avons initialement choisi l'université Princesse Noura, où Hélène Bourdelois a été invitée pour intervenir dans le cadre d'un séminaire pour les professeurs et d'un atelier, un workshop pour les étudiantes. Et l'objectif du séminaire était celui d'entrer en contact avec les professeurs, de leur présenter son parcours de recherche et sur les pratiques culturelles et numériques, d'une part, et sur les questions de genre, d'autre part. Tandis que l'atelier avec les étudiantes était justement une occasion pour communiquer avec les étudiantes et pour les inviter à répondre à un questionnaire qui avait été préalablement fait sur une plateforme de Google Forms. Et donc, sur les 39 étudiantes qui ont participé à l'atelier, 37 ont répondu au questionnaire. Et 31, à la fin du questionnaire, il y avait une question qui leur proposait de continuer à s'échanger avec Hélène Bourdelois dans le cadre d'une entrevue. Et 31 ont accepté en leur donnant leurs coordonnées. Toutefois, il existe un large écart, on va en parler pour les difficultés méthodologiques, mais il existe un large écart entre le nombre de celles qui ont accepté l'entretien, donc les 31, et le nombre des entretiens qu'on a effectivement conduits, 6, justement parce que les autres 21 n'ont pas répondu du tout à nos courriers, ou elles nous ont dit qu'elles pouvaient, mais après elles ne se sont pas présentées au rendez-vous prévu. Donc, l'autre terrain, c'était... À ce point, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir le terrain, et donc, pour avoir plus d'entretiens. Et donc, on a diffusé un appel à témoignages en arabe, en anglais et en français dans la section de l'Alliance française dédiée aux femmes, notamment juste vu qu'il y a une ségrégation, une séparation des secteurs femmes-hommes, donc on l'a diffusé. Mais on n'a pas eu de réponse non plus, donc la difficulté d'entrer en contact... Et ensuite, on a rencontré des femmes, grâce à des contacts qu'Hélène Bourdelois avait, on a rencontré des Saoudiennes qui travaillaient dans l'entreprise française Eurocopter. Et là, on a pu avoir des entretiens. Mais aussi, comme terrain, on a pu, pour rentrer en contact avec les Saoudiennes, on a eu les réseaux sociaux numériques, bien sûr. Donc, par exemple, sur la page de Facebook de l'INALCO, on a pu contacter des étudiantes saoudiennes qui nous ont permis qui ont diffusé le questionnaire dans leur réseau d'amis, et donc on a eu une deuxième vague de réponses au questionnaire. Et ensuite les forums ont été un terrain aussi, mais là aussi difficile. Pourquoi? Parce qu'on a publié, on a demandé aux administrateurs des forums de publier le questionnaire sur des forums qui sont spécialement dédiés aux femmes, des forums en arabe, en Arabie Saoudite. Mais on n'a pas eu des réponses souvent de la part des administrateurs des forums. Donc, on va voir comment on a pu continuer malgré les difficultés.
Du coup, le terrain, il a été assez élargi pour pouvoir recueillir plus de témoignages de femmes saoudiennes, puisqu'on s'intéresse aux femmes saoudiennes. Et là, je vais vous parler de comment on a procédé pour étudier leurs usages, ou d'une autre manière, quels sont nos usages pour étudier les usages. Et dans ce cadre, le projet FANA s'est appuyé sur trois principaux outils méthodologiques. Tout d'abord, il y a eu le questionnaire. Le questionnaire, il a été élaboré en français et il a été traduit en arabe et essentiellement diffusé dans cette langue pour qu'il soit accessible à une large population. Le questionnaire était, comme on peut dire, entre guillemets, un espèce d'artifice pour pouvoir recruter. Ce qui nous intéresse, c'est de rentrer en contact avec les femmes saoudiennes et de s'entretenir avec eux dans un terrain avec une démarche qualitative. Parce que le questionnaire, avec un nombre qui est assez réduit, on peut pas traiter une base de données avec juste quelques réponses. Ça ne sera pas tellement pertinent pour la recherche. Le contenu du questionnaire, c'est une espèce d'entonnoir qui va à des questions qui sont très généralisées sur, par exemple, la fréquence d'utilisation du web, pourquoi on utilise le web, quels sont les usages des réseaux sociaux numériques, quelles sont les applications qu'elles utilisent, comment ils s'identifient en ligne et hors ligne, par exemple, quel choix on fait pour la photographie de profil, quel choix on fait pour s'identifier, par exemple, leur nom, est-ce qu'ils ont mis leur nom, leur prénom, est-ce qu'ils ont mis un pseudonyme, des choses comme ça. Et après, le rapport à la photographie, à l'image, notamment l'image, qu'elle soit animée ou figée. Et le rapport au classement des photographies et de leurs archivages, de leur conservation, de leur devenir des comptes sociaux numériques, de leurs loisirs, et globalement des données un peu sociodémographiques sur le sexe, le lieu d'habitation, la situation familiale, le statut professionnel, l'origine sociale des parents aussi. Le questionnaire, il a suscité deux vagues de réponses. Tout d'abord, la première vague, c'était en mars avec 37 réponses. Et cette première vague de réponses, elle est issue du workshop que Hélène Bourdelois elle a animé au profit des étudiantes de l'université Princesse Noura. Ce sont des étudiantes de troisième année, deuxième année et troisième année de licence en langue française et traduction, et qui ont répondu à la fin de ce workshop au questionnaire et qui ont laissé. Une partie d'eux ont laissé notamment leurs coordonnées pour pouvoir poursuivre les échanges dans le cadre d'une interview. Après le traitement de ces résultats préliminaires, notamment les 39 réponses, nous avons aperçu quelques malentendus ou quelque chose d'incompréhensibilité dans cette première version de questionnaire. Et du coup, nous avons effectué de légères modifications pour notamment s'adapter au contexte d'utilisation des usages des technologies numériques en Arabie Saoudite. Et là, nous avons effectué une deuxième diffusion, une deuxième vague, un deuxième travail, une deuxième vague de diffusion auprès du public des Saoudiens. Les modifications que nous avons rapportées au questionnaire entre la première vague et la deuxième vague, rapidement à soulever pour des questions techniques et aussi des questions méthodologiques. Tout d'abord, dans la première version, nous distinguons entre les applications typiquement mobiles, telles que le WhatsApp et Snapchat, et les autres réseaux sociaux numériques. Étant donné que dans les réponses des interviewés ou des enquêtés, ils faisaient une certaine différence, ils ne faisaient pas cette différence entre ce qui est application mobile et ce qui est les autres réseaux sociaux numériques. Du coup, nous avons fusionné ces deux catégories pour parler d'une manière globale de réseaux sociaux numériques. Et nous avons ainsi éliminé quelques réseaux sociaux numériques qui ne sont pas utilisés en Arabie Saoudite, par exemple Viadeo ou MySpace. On proposait ainsi comme choix à la question de la situation familiale le fait d'être en couple. Et nous l'avons éliminé. Ce n'est pas uniquement pour des réponses au questionnaire, mais aussi parce que le questionnaire il a été relié par des Saoudiennes et ils nous ont vivement recommandé d'éliminer cette option parce qu'elle ne s'adapte pas au compte culturel du pays, que la femme elle est soit célibataire, soit elle est mariée. Concernant la question de l'archivage des photographies et des vidéos, nous avons proposé aux enquêtés une grille avec des options et des échelles. Notre objectif était d'une part d'étudier la fréquence d'archivage et d'autre part les supports utilisés pour cela. La fréquence, elle est de très régulièrement tous les jours jusqu'à jamais. Compte tenu du support, nous avons proposé par exemple des supports tels que des CD, le drive, le disque dur, le smartphone, des choses comme ça. Les réponses à ces questions, d'une part, nous ont apparu douteuses. Plusieurs enquêtés ont répondu très régulièrement tous les jours. Ce qui nous a semblé pouvait venir d'une lecture rapide et inattendue, puisqu'on proposait très régulièrement tous les jours. On s'est dit peut-être qu'ils ont vu juste très régulièrement, sans faire attention à la poursuite de l'option. Mais aussi de la notion d'archivage pour elles. Qu'est-ce qu'elles entendent pour cette notion d'archivage? Entendaient-elles le fait de prendre des photographies quotidiennes et de les conserver dans les smartphones, dans leur smartphone ou d'une manière très globale? Ainsi, nous avons remplacé cette option tous les jours par l'option au moins une fois par semaine. Toujours concernant la question de l'archivage des photographies et qu'en complément à cette question, on proposait à celles qui répondaient jamais de mieux préciser leurs réponses. Certains ont répondu que la religion ne permet pas de visionner le visage. D'autres, souvent, il n'y a pas un besoin d'archiver des photographies ou je n'aime pas beaucoup prendre des photographies. Il nous a semblé pertinent pour mieux apprécier ou mieux mesurer cet acte d'archivage de proposer comme option sur la même grille « Je supprime souvent mes photographies ou vidéos ». Le deuxième outil que nous avons, sur lequel on s'est appuyé dans cette recherche, ce sont les entrevues et notamment des entretiens semi-directifs. La grille d'entretien, elle a été préparée au cours du mois de février en deux versions, en anglais et en français. Elle reprend les grandes thématiques du questionnaire et il s'agit pour nous d'affiner certaines réponses pour mieux les éclaircir. Pour rappel, jusqu'à présent, nous avons réalisé uniquement 12 entretiens, 10 avec des Saoudiennes qui résident à Riyad et 2 complémentaires avec des Saoudiennes qui sont des étudiantes ici à Paris. 5 entrevues ont été réalisées en face à face et les autres se sont déroulées par réseaux sociaux numériques, notamment Line, typiquement les applications Lime et FaceTime, et seulement un qui a eu lieu en audiovisuel. Les entrevues ont eu lieu de fin février jusqu'au mai. Il s'agit d'entretiens riches, de 2 heures jusqu'à 4 heures en moyenne. Elles se sont déroulées soit en langue arabe, soit en anglais, soit en français, et un seul entretien a nécessité la présence d'une interprète. Compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées, ce terrain il a été hérissé de difficultés. Tout d'abord pour Hélène Bourdelois, qui a eu d'importantes difficultés pour se déplacer en Arabie Saoudite, dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduite, notamment, et aussi des difficultés pour s'organiser pour se déplacer dans des universités, pour programmer le séminaire, pour s'entretenir avec des interviewés. Récemment, elle nous explique que dans sa dernière mission de déplacement en Arabie Saoudite, qui a coïncidé avec la présence du président des États-Unis, Barack Obama. Et là, elle a eu un grand problème parce que les routes, les routes, il n'y avait pas de. Elle ne pouvait pas se déplacer alors qu'elle avait bien des entretiens à effectuer, des entretiens qui n'ont pas eu lieu.
Mais excusez-moi, je ne veux pas bouleverser l'ordre de votre présentation, mais est-ce que vous avez eu des difficultés liées à l'interdisciplinarité, justement, au fait que, parce que c'est de ça qu'il est question quand même essentiellement. Donc vous nous avez présenté votre protocole d'enquête.
L'interdisciplinarité, on va l'expliquer.
Avec les difficultés, donc est-ce qu'il y en a qui sont liées au problème interdisciplinaire, le fait que vous représentiez des disciplines différentes et que... entre vous et peut-être aussi dans le dialogue.
Entre nous, il n'y a pas eu de difficultés au préalable parce que On est de formation en sciences humaines et sociales.
Ce protocole, par exemple, c'est le protocole de la sociologie, j'imagine. Enfin, un
Oui.
protocole assez standard qui est enseigné
Oui.
donc dans un master de sociologie, par exemple. Hein. Mais est-ce qu'il est applicable à tous les types d'études?
Non, je pense peut-être, mais chaque chercheur, il adopte son protocole et il s'adapte avec les difficultés de terrain.
La particularité, c'est qu'effectivement, on a en même temps fait un questionnaire et après,
Un
le questionnaire
questionnaire
était
pour
seulement un
entrer.
artifice pour pouvoir avoir des entretiens. Mais pourquoi cette nécessité d'avoir un questionnaire et des entretiens? Parce qu'effectivement, avoir des entretiens tout de suite, c'était vraiment très difficile. Parce que, y a une sorte de méfiance et en tout cas de incompréhension
Oui.
sur le terrain en Arabie Saoudite, qui a fait qu'il fallait avant présenter le projet avec un questionnaire. Et effectivement, on s'est rendu compte que le nombre de celles qui ont accepté l'entretien était mineur au celui du
Était
questionnaire.
quasiment mineur. Même pour à un point qui est très important, que par exemple les professeurs à l'université de Princesse Noura, ils ont refusé de diffuser le questionnaire auprès de leurs étudiants. Et ils attendaient que ça soit réglementé dans le cadre d'un séminaire. Pour la question de l'interdisciplinarité, c'est plutôt avec les interviewés et au moment du déroulement de l'entretien. Parce qu'on a eu déjà deux sortes de difficultés. La difficulté pour obtenir des entretiens et la difficulté au moment du déroulement de l'entretien. Et cette question d'interdisciplinarité arrive, par exemple, dans le cas de la compréhensibilité du dialecte spécifique saoudien, qui est tout à fait différent de l'arabe classique, notamment quand on conduit des entretiens en langue arabe. Parce que souvent on conduit des entretiens d'une manière assez spontanée, sans rentrer dans une langue qui est très, très classique. Et ça nous arrive de ne pas comprendre certains mots qui sont propres au
Au
pays,
dialecte, au
au
dialecte du pays.
dialecte et au pays. La question notamment de l'autocensure, de venir avec une culture de chercheur qui est occidentale et d'être exposé à un interviewé qui a une autre culture tellement enracinée dans un pays qui est très rigoriste, où l'interprétation des préceptes islamiques diffère des autres pays, que ça soit arabe ou que ça soit d'autres pays.
Vous vouliez après développer peut-être autre chose, enfin sur les.
Oui. On va rapidement développer trois idées conclusives qui ressortent de cette étape qui est très préliminaire, très exploratrice, qu'on n'a pas encore arrivé au stade de conclusion de ce projet de recherche.
Oui. Donc, une première idée, c'est effectivement qu'il y a en Arabie Saoudite un rapport hybride à l'image et à la photographie. Et cela se reflète dans le contexte des réseaux sociaux. Donc, un rapport hybride, pourquoi? Bon, on a dit on l'a expliqué, qu'effectivement, les traditions et les coutumes saoudiennes constituent un héritage national qui influence fortement le rapport de l'image à la photographie. Et toutefois, ces impératifs qui régissent la vie, d'un côté, ces impératifs qui régissent la vie sociale se reflètent également dans la vie virtuelle. C'est-à-dire que, effectivement, oui, effectivement, dans le rapport à la photographie, les femmes sont extrêmement hésitantes et elles répètent tout le temps dans les entretiens qu'elles doivent faire attention, que we have to take care, lorsqu'elles publient une photo d'elles. Et toutefois, il ressort que des entrevues réalisées que les femmes essaient de se placer entre conformité aux normes et à l'héritage culturel, basé justement sur la séparation espace public, espace privé, licite, illicite, et les caractéristiques ou fonctionnalités propres aux réseaux sociaux, telles que la publication d'une photo personnelle ou une inscription sous un compte avec son propre nom, et prénom, ou des règles de paramétrage. Oui, justement, penser aux règles de paramétrage, avoir un compte public, par exemple. Beaucoup d'entre elles ont des comptes publics. Donc, ensuite, il y a l'idée qu'il y a effectivement, malgré ces contraintes liées à la prise des photos et liées aux préceptes, liées aux traditions et coutumes en Arabie Saoudite, il y a effectivement une prise, il y a en même temps une prise excessive des photographies privées et intimes, même sans voile. Les femmes souvent prennent des selfies avec leurs amis, avec leurs proches. Et donc, à ce moment, un premier choix s'opère parce qu'elles réfléchissent si publier, si diffuser ou pas sous le numérique ces photographies de soi, ces vidéos ou vidéos. Et donc, par exemple, une femme, Amal, une femme de 37 ans, nous a mariés, nous, qui réside à Riyad, nous affirme qu'elle peut prendre des photos avec son mari dans la voiture, dans des espaces publics. Et elle peut le diffuser, mais elle ne partagerait jamais des photos d'elle avec son mari prises dans des espaces privés. Donc, en fait, la question de la diffusion, ce choix de diffusion, il est bien réfléchi et il prend en compte l'espace dans lequel la photo a été prise, les personnes qui sont présentes, l'intimité du cadre, tout un tas d'informations, de données. Donc,
actuellement, on se pose la question.
Oui, donc à ce point, donc devant cet excès de prise de photos, en même temps, donc on a beaucoup réfléchi même aux paroles d'Irène Jonas qui affirme que si la photo argentique permet de prendre des images dans l'optique de se souvenir et de garder des traces, la photo numérique serait un moment que l'on partage et que l'on oublie. Et là, c'est exactement l'utilisation qui est faite aussi par ces femmes. Et on a trouvé que... Enfin, je vous présente très rapidement le cas de Snapchat parce qu'il est particulièrement intéressant pour le rapport justement à l'image et à la photographie. Parce que Snapchat a eu un énorme succès en Arabie Saoudite justement parce qu'il s'agit d'une application dans laquelle les vidéos et les photos instantanées disparaissent au bout de 24 heures. Donc, il n'y a aucune trace mémorielle. Et on peut même envoyer une photo de nous à une personne sélectionnée de notre contact et décider que la personne peut la visualiser seulement pendant 5 secondes, 8 secondes. C'est un avantage crucial pour les Saoudiennes qui se préoccupent de la présence donc, en ligne de leur photographie personnelle et des réactions des autres face à leur photographie, de l'utilisation des autres de leur photographie. Donc, en fait, pourquoi un rapport hybride ? Parce que si l'espace, par rapport aux réseaux sociaux et à la photographie, parce que si l'espace public réel est ségrégué, les réseaux sociaux numériques constituent un lieu de détournement qui rend la publication de ces photographies acceptable, licite. Et donc, on a par exemple une fille, on a le cas d'Adèle, une étudiante à l'université Princesse Noura, qui affirme qu'elle prend des photos d'elle sans voile et les envoie à ses amis virtuels sur Snapchat de sexe masculin. Et cela ne lui pose aucun problème. Même eux, ils font des commentaires et ils réagissent et elle accueille très bien ces commentaires. Et en quelque sorte, oui, cela est acceptable et licite à ses yeux, alors que en fait, il est en contradiction avec les normes qui régissent l'espace public, qui sont celles de non-mixité et de non-partage. Voilà. Donc ça, c'est une première idée. On va passer vite sur les deux dernières idées.
C'est sur les deux dernières conclusions. Il y a l'idée de l'identité en ligne et comment ces femmes s'identifient en ligne, et l'idée de s'échapper à son identité de sexe qui est assignée par la société saoudienne. Il ressort des interviews que nous avons effectuées, des profils qui sont pluriels sur les réseaux sociaux numériques. Il y en a celles qui s'identifient par leur propre nom et par leur propre nom et prénom. Elles font très attention à leurs publications. Elles prennent bien soin de bien réfléchir avant de rédiger quelque chose. Elles veulent toujours coller à l'image de la fille de bonne famille. La fille de bonne famille, c'est la fille qui va rester voilée, qui va respecter les coutumes et les normes qui sont régies dans la société et qui sera peu critique où ses publications vont être neutres. Tel que nous le dit Abir, 38 ans, divorcée avec deux enfants, entrepreneuse et chargée de cours dans l'université. Dans une assise comme ça, je peux rentrer avec vous dans une longue discussion. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des choses que vous ne pouvez pas publier. Déjà, vous ne connaissez pas les personnes qui sont abonnées à vous, vos followers, qui vous suivent. Du coup, ils exercent une sorte d'autocensure sur elles, un contrôle de soi et sur leurs publications. D'autres vont plutôt choisir de s'identifier avec un pseudonyme et d'avoir un compte public et presque anonyme. Personne ne sait que c'est elle qui est sur ce compte. Surtout quand on est sur Twitter, où il n'y a pas cette exigence de montrer son numéro de téléphone par rapport aux applications mobiles telles que WhatsApp. Ou si ton numéro de téléphone il est partagé avec une autre personne, c'est facile de voir ta photographie de profil ou de voir les statuts que tu publies. Elles décident ainsi de construire leur propre réseau pour pouvoir s'y exprimer librement sans se préoccuper du soin de l'image de soi. Marianne, 22 ans, étudiante à la PNU, en parlant de son compte Twitter, affirme « Ce sont mes propres idées. Si j'avais des membres de ma famille, mes idées seraient limitées et conditionnées par leur présence. Je ne veux pas rentrer dans des débats familiaux conflictuels brutaux. Je partage avec moi-même et la société que j'ai sur Twitter. » Enfin, il y en a le troisième type. Il y en a qui se placent entre les deux. Elles s'identifient avec leur propre nom, prénom. Toutefois, leur compte est privé et elles sont très sélectives concernant le choix de leurs amis ou des membres de leur réseau. Une dernière conclusion très, très rapide sur la question de l'archivage. Les photographies ne sont pas souvent classées ou archivées dans des supports tels que des CD, des disques durs sur l'ordinateur portable ou quelque chose comme ça. Elles sont plutôt conservées dans les smartphones. Ils sont tous en désordre, tout est mélangé, rarement classé et stocké par date ou par événement. Par date, par exemple, photographie prise en 2015 ou par événement, par exemple, célébrité familiale ou voyage avec des amis ou séjour ou quelque chose en ce sens. L'archivage devient une obligation quand la mémoire des smartphones atteint sa capacité limite et du coup, ils ne peuvent plus sauvegarder. Je vais rapidement parler de quelques bribes qui ressortent de la question de numérisation, notamment sur la question du choix de la photographie de profil pour certaines, une photographie de l'enfance comme photographie de profil, comme un moyen pour contourner certaines traditions, le fait d'être dévoilé son visage dans les photographies plutôt que de les maintenir. La numérisation devient ainsi un loisir dans le cadre où on peut partager d'anciennes photographies d'enfance ou de famille dans des réseaux sociaux numériques tels que nous parlent les filles que nous avons interrogées, par exemple dans des groupes sur WhatsApp, groupes de famille ou groupes d'amis, et non pas pour archiver et conserver la mémoire familiale.
Donc oui, en conclusion, Irène Jonas a affirmé que la transmission de la mémoire familiale se fait généralement par les femmes et qui en sont détentrices. Donc faire l'album, c'était une activité globalement féminine. Alors, que se passe-t-il quand les appareils photos sont intégrés au smartphone? Ils prennent les filles en Arabie Saoudite. Et pour les femmes, donc, comment s'articule cette détention de la mémoire familiale et on s'interroge si elles restent au centre de leur préoccupation.
Est-ce que les smartphones sont plutôt des supports comme gardiens de la mémoire familiale ou de gardiens d'archivage comme un réservoir de photographie?
Voilà. On vous remercie.
Merci à vous de cette présentation.